enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La terreur, moi aussi j'inspire la terreur à tous mes adversaires. Parce que tu es tout puissant à l'intérieur, je suis tout puissant parce que tu habites pleinement en moi par ton esprit. Et je suis reconnaissant pour cela. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Mon âme est attachée à l'Éternel. Mon âme dépend entièrement de l'Éternel. Reçois l'honneur et la gloire. Ma reconnaissance et mon appréciation, ma louange et ma gratitude, ma célébration, ma contemplation. Pour toi, seul véritable Seigneur, seul Dieu, incomparable, majestueux, merveilleux. Merci de ce que tu nous rassembles ce matin dans ce lieu, dans la maison de l'Éternel, en présence des ambassadeurs, en présence des ministres, des gouverneurs, des princes, des princesses, des champions et des championnes de Dieu que nous sommes et que nous sommes en train de devenir par la puissance de ton esprit. S'il te plaît, inspire ce temps, inspire ce moment, Saint-Esprit. Inspire cette parole, les bombarde-la dans nos cœurs, s'il te plaît. Par la puissance de ton esprit, parle au cœur de quelqu'un ce matin. Dispose nos cœurs favorablement pour recevoir ta parole. Nous écartons, nous chassons tout esprit de distraction, de déconcentration, de défocalisation dans le nom de Jésus. Qu'il s'en aille maintenant. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos cœurs maintenant. Qu'il incline nos cœurs vers lui et vers lui seul. Afin que nous soyons disponibles, disposés, agréables à Dieu. Parce qu'au final, Seigneur, à quoi sert-il de faire beaucoup de choses ici-bas sur la terre, si ce n'est pas pour te faire plaisir, si ce n'est pas pour être agréable, à quoi cela sert-il? Nous nous soumettons à toi, nous dépendons de toi et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Et vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue à l'ICC. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Merci, Expression Impact. Le lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Je le sais. Si vous ne le savez pas, moi je le sais. Je le reconnais aussi. Dieu nous rend extraordinaires par sa parole. Allez, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1. Hein? Alléluia. Ce matin, je veux parler à nos cœurs encore ce matin. Parce que, comment faire pour déclencher la faveur? Comment faire pour déclencher la faveur de Dieu? Une faveur exceptionnelle dans une situation périlleuse, dans une situation difficile. Ce matin, nous allons méditer ensemble l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Je voudrais examiner avec vous son histoire, parce que c'est une histoire qui ressemble à l'histoire de ma vie, personnellement, et à l'histoire de ta vie aussi. En tout cas, à quelqu'un qui, je sais, est concerné par ce message. Alors, je lis 1 Samuel chapitre 1. Et il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim,
de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tsou, fils de Tsoup,
Éphratien.
C'est comme Pierre, Jacques et Jean. Il y avait deux femmes, il avait plutôt deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, c'est-à-dire des insultes, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, que quelqu'un dise toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne, verset 9, se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, que quelqu'un dise l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme, dégoûté, écœuré, méprisé, attristé, catastrophé. Elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais elle n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Pasteur, vraiment, faut discerner. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais, mon âme, que quelqu'un dit, je répondais mon âme devant l'Éternel. Je répondais mon âme devant l'Éternel. Je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus jamais le même. Verset 19, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revint dans leur maison à Rama. Ce soir-là, Elkana connut sa femme. Il connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Que quelqu'un dise Amen. Je voudrais vous parler ce matin, discuter avec vous, partager avec vous sur l'histoire de cette femme exceptionnelle, qui en vérité fut d'abord une femme ordinaire, pour ne pas même dire une femme complètement broke. Brisée, cassée, déprimée, comprimée, supprimée, opprimée, démantelée, disloquée, démembrée. C'était sa vie au départ. Mais la fin d'une chose est mieux que son commencement. Alors je vous rappelle rapidement le contexte. Quel est le contexte? Anne était une femme de Dieu. Anne était une femme qui aimait l'Éternel. Chaque année, elle montait à la montagne de l'Éternel. Elle allait à Shiloh pour adorer l'Éternel avec son mari. Elle avait une rivale, une seconde femme de son mari ou première femme de son mari qui s'appelait Pénina. Et Anne aimait l'Éternel, elle craignait l'Éternel, elle priait l'Éternel, mais tout n'allait pas bien dans sa vie. Et je bénis Dieu de ce que la parole de Dieu est assez ouverte là-dessus et assez flexible pour reconnaître qu'on peut aimer Dieu, on peut craindre Dieu, on peut prier Dieu et avoir des problèmes. Et que sa vie soit une vie non épanouie. Que quelqu'un dise Amen. Et Anne avait donc un problème, la Bible dit qu'elle était stérile. Frappée de la stérilité. Et quand vous lisez le texte, vous voyez bien que la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et tout à coup, ça nous ramène quelques années en arrière pour méditer sur la vie de Abraham avec son épouse Sarah, la vie de Rebecca avec Isaac, Rachel avec Jacob. Et la Bible ne dit pas que c'est Satan qui l'a rendu stérile. La Bible dit que l'Éternel l'a rendu stérile. Or, l'Éternel est bon, il est digne de louange, sa grandeur est insondable. Or, l'Éternel est merveilleux. Alors, pourquoi l'Éternel a-t-il rendu cette femme stérile? Parce que nous comprenons de toute manière que Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne fait rien au hasard. Peut-on donc être dans la maison de l'Éternel, aimer l'Éternel, prier l'Éternel, chérir l'Éternel, mais avoir un problème, avoir un blocage dans sa vie? En tout cas, Rebecca l'avait, Rachel l'avait. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 1, n'y allez pas, je le lis pour vous. Genèse, chapitre 30, verset 1. La Bible dit, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, son mari, elle porta envie à sa sœur et elle dit, « Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. » Elle avait sa sœur qui s'appelait Léa. Léa avait des enfants, Léa avait des grâces, avait des bénédictions, avait des faveurs que Rachel n'avait pas. Et un jour, Rachel dit, vous voyez, quand une femme parle comme ça, c'est qu'elle a beaucoup encaissé. Quand tu vois les enfants de Léa naître, merci Seigneur. Un autre enfant naît, toujours Léa, merci Seigneur. Un autre enfant naît, toujours ma soeur, merci Seigneur. Un autre enfant naît, une autre grâce, une autre bénédiction naît. Vient dans la vie de sa soeur, et regarde, merci Seigneur, mais son cœur a encaissé. Et la Bible dit qu'elle porta envie à sa soeur, ça veut dire qu'elle devient jalouse de sa soeur. Envieuse, amère envers sa sœur. Et elle dit à son mari, pour exprimer sa colère, donne-moi des enfants ou je meurs. Et son mari lui dit, mais hé, c'est l'Éternel qui a fait ça, c'est pas moi, pourquoi tu t'en prends à moi? Amen. Donc voilà le contexte. Elle était stérile, non pas à cause de Satan, pas parce que Satan l'avait attaquée. Il est important de discerner pourquoi est-ce que j'ai un problème, pourquoi est-ce que j'ai un blocage. Oh, que quelqu'un dise amen. Est-ce Dieu? Ou est-ce le diable? Si c'est le diable, alors il n'y a pas de problème. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment attaquer. Ah, mon frère, s'il faut jeûner 40, on va jeûner 40 jours. Mais moi, je vais sortir de ce problème. Mais si c'est Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est l'Éternel qui me rend comme ça. Si c'est l'Éternel qui bloque mes finances. Il fut un temps où je ne travaillais pas du tout. Alors j'étais diplômé, polytechnicien, ingénieur et toutes ces choses. Mes frères, sœurs, je galérais, pas de travail, niette et niette et niette. Et alors, je me souviens, à cette année-là, c'était en 96, tout diplômé que j'étais, je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé à interroger le Seigneur, alors j'ai compris. Parce que Dieu me disait toujours, fortifie-toi et prends courage. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous, et ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi non plus. Parce que j'ai plutôt envie que tu me dises, je te sors. Je suis là pour te délivrer, fils, et je le fais tout de suite. Mais quand il te dit, fortifie-toi et prends courage, ça n'augure rien de bon, ça ne laisse envisager rien de bon. Mais pour moi, ça voulait dire une chose, c'est que Dieu contrôlait. C'est que Dieu le permettait, et il avait certainement une raison. Et que ce n'était pas, et alors, parce que les gens me disaient, oui, mais tu es maudit. Il est super spirituel. Quand il y a un blocage, là, oh frère, sûrement il y a une malédiction dans ta vie. J'ai dit, frère, je suis devant Dieu. S'il y a une malédiction qui révèle, s'il n'y en a pas aussi qui révèle. Mais je savais qu'il n'y en avait pas. Parce que Dieu est en train de m'emmener dans un processus de brisement, de cassage, de rupture de tous mes membres, mes ligaments et mes os, mes chairs. Jusqu'à ce que je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Ce que je n'avais pas fait à l'époque. Parce qu'à l'époque, je disais, je suis polytechnicien, donc je fais la volonté du Seigneur, donc je fais tout pour la seule gloire de Dieu, bien sûr. Mais Dieu regarde le cœur et non pas ce que nous disons. Que quelqu'un dise amen. Alors oui, on peut aimer Dieu et puis avoir des afflictions. Oui, on peut aimer Dieu et puis avoir de grands problèmes ou des grands blocages dans sa vie. C'est la vérité. Que quelqu'un dise amen. Ça, c'est le contexte de l'histoire que nous lisons ce matin. Anne a commis des erreurs. Tout comme nous aussi, nous commettons des erreurs. Je voudrais commencer par parler des trois premières erreurs que Anne commise, qu'il ne faut surtout pas commettre. La première erreur, quand on étudie le texte, c'est qu'on se rend compte que Anne était prisonnière de sa rivale Pénina. Une femme de Dieu, une femme qui aime l'Éternel, qui craint l'Éternel, qui prie, qui invoque l'Éternel, prisonnière de sa rivale, prisonnière de son frère, prisonnière de sa sœur, prisonnière de son père, prisonnière de sa mère ou prisonnière de sa mère. Anne était prisonnière de sa rivale Pénina. Pourquoi est-ce qu'elle était prisonnière? Parce que voyez-vous, Anne a vécu dans un contexte difficile. Elle n'avait pas d'enfant. La sœur en Christ, là, Parce qu'elle aussi, elle allait à la montagne de l'Éternel. Que quelqu'un dise amen. Non, parce que la femme de Elkanah, l'autre femme, Pénina, elle aussi est montée à la montagne de l'Éternel. Elle aussi, elle allait adorer avec son mari et tous ses enfants l'Éternel. C'était donc une sœur en Christ. On prie dans la même église, dans la même maison. Mais la sœur avait un problème. Elle injuriait l'autre. Comme ça se passe souvent dans l'église. Mais il ne faut pas le dire. C'est pas toi. Reste tranquille, assieds-toi. Toi, tu es bien, je sais. Mais il y a des gens dans l'église qui sont remplis de jalousie, de haine, de méchanceté. De méchanceté. La sœur, elle va adorer l'Éternel. Et pendant qu'elle adore l'Éternel, elle est en train d'insulter sa rivale. Elle insulte sa sœur. Incapable. Regarde mes enfants. Tu en as combien déjà? Il t'a donné combien? Les enfants, elle en a combien dans son ventre? Elle a méprisé. Elle se moquait de sa sœur. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que malgré les injures, le mépris, malgré le fait d'être rabaissé, d'être blessé par son frère ou par sa sœur, on peut réagir différemment. Mais Anne s'est laissée emprisonner par sa rivale. Pourquoi elle s'est laissée emprisonner? Parce qu'elle a développé ce qu'on appelle de l'amertume dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Anne développa donc de l'amertume dans son cœur par rapport à sa sœur. Et inconsciemment, elle développe l'amertume dans son cœur par rapport à Dieu. Pourquoi suis-je comme cela? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi ne m'exauces-tu pas? Première erreur de Anne, ma sœur, prisonnière. Prisonnière à cause du fait que j'ai tellement encaissé ce qu'on m'a dit. J'ai tellement été blessé et j'ai accepté les blessures et j'ai accepté les mauvaises pensées et j'ai nourri ces mauvaises pensées dans mon âme que je commence à en vouloir à la personne qui m'insulte constamment, que je commence à en vouloir à la personne qui me blesse. La personne qui te tire dessus commence à contrôler ta vie. Quand elle est là, je ne suis pas bien. Quand je la vois, je change de trottoir. Incapable de dire bonjour, incapable de sourire, incapable de prier quand elle rentre de l'église. Je sors de l'église. Je suis dans une église. Si elle rentre là, frère, moi je quitte l'église. À cause de quelqu'un. Quelqu'un dit amen. Elle était devenue prisonnière. À cause de quoi? L'amertume, l'amertume. Devenue amère à cause des circonstances. Savez-vous qu'on peut être amer à cause du succès des autres? Je vous l'ai expliqué la dernière fois à la fin d'un culte. Vous disant comment j'avais souffert quelques années auparavant. Oh, écoutez-moi. Quand l'Éternel est en train de bénir l'église ICC. Et comment Dieu était en train de mettre en avant l'absent de ce jour. Et comment Dieu le mettait en avant. Comment Dieu mettait en avant le pasteur Ivan. Et des simples paroles qui me blessaient, alors qu'elle n'aurait pas dû me blesser, mais ça me blessait. Bénissons Dieu pour le pasteur Ivan qui nous a reçus ce matin. Et puis dans mon cœur, là, une voix me dit, mais pourquoi pas toi? Mais c'est terrible. Être amer parce que Dieu est en train de faire grâce à quelqu'un. Être amer parce que Dieu est en train de distinguer quelqu'un. Être amer parce qu'on a accordé une faveur à quelqu'un. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? En tout cas, vous ne m'aurez pas, je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Ça, je le sais. Moi, je suis délivré. Oh. Mais même trop bien délivré. Quand on vient de loin, on peut prendre plaisir à parler de certaines choses pour édifier les autres. Quelqu'un dit amen. Parce qu'on sait que bon sang, c'était un piège. Que tu aimes la personne ou que tu n'aimes pas la personne, tu peux devenir amer parce que Dieu est en train de faire grâce à quelqu'un. Il y en a qui sont amers parce que Dieu fait grâce, ils ont l'impression que Dieu est en train de bénir les gens qui ne craignent pas Dieu ou les méchants. Il dit, mais comment lui là, Seigneur, lui là, il ne doit pas être béni, il est en train d'avoir des grâces, des faveurs, des choses, des maris, des femmes, des toutes sortes de bonnes choses, alors que nous on est là, en jeûne, en prie, en supplie, mais on ne voit pas clair. Quand on ne voit pas clair, c'est une expression qui veut dire que Dieu, ça ne va pas bien. Et on peut devenir amer parce que quand on voit comment l'Éternel est en train de faire du bien à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu voyais la personne, vous étiez ensemble, mais soudainement, Dieu est en train de vous distinguer. Il trace une voie pour l'autre, mais toi, apparemment, ta voie n'est pas encore tracée. What about me, God? Et moi, alors, ô Éternel? La voie s'ouvre pour lui, mais moi, alors? Et je vous ai dit la dernière fois, combien j'en ai souffert de mon cœur. Donc, cette histoire de Anne, je l'ai vécue. Ce que je vous dis ce matin, je l'ai vécu et je l'ai vécu sérieusement. Et ça a été un gros challenge. Parce que je découvre alors qu'en moi, il y a des sentiments qui n'étaient pas là avant. Je ne suis pas né comme ça. Quelqu'un dit amen. Je n'étais pas comme ça avant. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé que des pensées mauvaises ont commencé à infiltrer mon cœur. Et je les ai rentrées, je les ai laissées entrer. Au lieu de mettre stop, passez pas. J'ai laissé, laissé, laissé. Ah, vous savez que les pensées, ce sont des semences dans ton cœur. Et à un moment donné, tu te rends compte que qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas dans mon état normal. Pourquoi est-ce que je développe ce sentiment bizarre par rapport à ce frère ou cette sœur-là? C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon ami, c'est mon père. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je normal? Quelqu'un dit amen. Tu deviens prisonnier, prisonnière de ton prochain, de ton voisin. Parce que tu développes à son égard de l'animosité, de la colère, de la haine, de l'amertume. Tu deviens amer. Et vous savez, c'est ce qui est le plus terrible avec ce genre de sentiment d'amertume. Le plus difficile, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et puis, les quelques rares fois où ta conscience te le reproche, parce que la conscience joue son rôle, que quelqu'un dise amen. La conscience nous parle, et Dieu parle dans notre esprit par notre conscience. Mais en général, tais-toi. C'est pas vrai. On nie, parce qu'on ne veut pas croire que nous pouvons penser comme ça, alors que nous aimons Dieu, nous craignons Dieu, c'est vrai. Mais il y a différents niveaux de crainte de Dieu. Il y a différents niveaux d'amour de Dieu. On ne peut pas dire qu'Anne n'aimait pas l'Éternel. Que quelqu'un dise amen. On ne peut pas dire qu'elle n'aimait pas l'Éternel. Non, c'est faux. Elle aimait l'Éternel, mais elle s'est laissée piéger par ses pensées. Elle a ouvert la porte à des pensées impures. Des pensées de jalousie, des pensées d'amertume, des pensées de pourquoi seulement l'autre, pourquoi pas moi. Hier, c'était Vicky le mariage, mais moi alors c'est quand? J'en ai marre. Pourquoi? Ce sentiment-là, on ne le voit pas parce qu'il est subtil. Il est subtil, frère. Ce n'est pas comme la cigarette. Non, frère. Il est subtil. Il se développe dans les racines profondes de ton cœur. Et tôt ou tard, il va germer. Tôt ou tard, tu verras la racine, mais ça risque d'être trop tard. Parce que petit problème, non traité, deviendra grand problème. Oh, quelqu'un dit amen. Petit problème deviendra un grand problème. Et la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on développe des sentiments qui sont mauvais. Et le cœur devient par conséquent souillé. Le cœur n'est plus pur. Le cœur devient impur. Et tu sais qu'un cœur impur, c'est une grande porte pour toutes sortes d'esprits impurs. Parce que ça, c'est la loi de l'attraction. J'attire à moi les esprits mauvais, méchants. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon cœur devenir impur. Mais je ne suis pas né comme ça. Je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas fait exprès. Oui, certes. Mais n'empêche que tu as ouvert la porte de ton cœur pour toutes sortes de sentiments mauvais. Quelqu'un dit amen. Alors voilà, ton cœur qui était bon, ton cœur qui était joyeux, devient triste, devient amer. Surtout quand tu penses à une situation ou à une personne en particulier. Ou quand tu vois une personne particulière, ton cœur, qui pourtant est en train de chanter à cause d'un regard. Oh! Je ne chante plus. Aie pitié de moi. Alors quelques instants, c'était la joie. Aie pitié de moi, arrière de moi, ma sœur, au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit aïe. Première erreur de Anne, elle était prisonnière de sa rivale. Que quelqu'un dise, je ne veux pas être prisonnier de Pénina. Oh, que quelqu'un le dise, je ne peux pas être prisonnier, prisonnière de Pénina. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ou bien voulez-vous que je m'arrête? Deuxième erreur de Anne, elle était devenue ingrate. Anne était devenue ingrate. Parce qu'elle passait son temps à regarder ce qu'elle n'avait pas, au lieu de regarder ce qu'elle avait. Anne est devenue amnésique, ingrate. Je n'ai pas d'enfant comme Pénina. Mais elle avait l'amour de son mari. Combien de femmes prient pour avoir l'attachement, le cœur, la dévotion de leur mari fidèle. Le mari avait deux femmes. Il aurait pu mépriser Anne, parce qu'après tout, femme, tu n'as pas d'enfant. Mais je connais des hommes qui méprisent leurs femmes qui n'ont pas d'enfant pour aimer les femmes qui ont des enfants. Seigneur, tu n'as pas de femme? Eh, chérie, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je veux mon enfant. Sinon, moi, je veux aussi là-bas. Mais elle avait un don de Dieu qu'elle ne voyait pas. Elle avait un mari qui l'aimait et qui lui donnait une double portion à elle. Ce n'était pas une double portion de ce qu'elle voulait, d'accord, mais c'était au moins une double portion d'une faveur que lui accordait son mari. Parce que son mari ne rigolait pas autant avec l'autre, alors qu'il faisait des enfants avec l'autre. Mais elle avait l'attention, la considération, le respect, la valorisation de son conjoint. Que quelqu'un dise amen. Et l'autre, Pénina, n'avait pas la même faveur. La Bible dit qu'elle avait une double portion de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Elle était aimée. Et mon Dieu, c'est dur d'être aimé de nos jours, hein, mes soeurs. Ah oui. Ah, une soeur dit amen. Je parle d'aimer avec un cœur sincère. Aimer avec un cœur sincère. Aimer sans intérêt. Aimer sans reproche. Aimer juste parce que je t'aime. Abby est une femme qui est comblée. Faut le lui dire. Dites-le lui, mes soeurs, qu'elle le comprenne bon sang. Je lui dis assez, mais parfois, vous savez, nul n'est prophète dans sa maison. Non, rectification, parce que là, quelqu'un va me tirer dessus après. Ma femme, elle le sait, mais c'est aussi bien quand quelqu'un te dit, ton mari là, il t'aime, il parle de toi tout le temps. Il dit, femme, toi là, non, parce que j'ai compris que prêcher dans sa maison, pasteur Jacques, tu es d'accord? Nous prêchons, mais parfois aussi la femme, elle est là, ouais, amen, amen. Il dit, femme, tu savais le nombre de tentations auxquelles nous échappons tous les jours. N'empêche que je suis marié depuis 12 ans, depuis 10 ans, je suis avec ma femme depuis 12 ans. Pas une seule fois, je l'ai trompée, et dans 12 ans, je dirai encore la même chose. Et je bénis l'Éternel. Maintenant, le Seigneur, elle aussi, elle doit comprendre les enjeux. qu'un homme dise amen, frère, aidez-moi. Oh, frère, aie pitié de moi. C'est une grâce que d'avoir un mari qui t'aime. Un mari qui t'aime, c'est terrible. Il y a une soeur qui vient me dire il y a quelques jours, alors que j'étais en voyage, elle me dit, chef, je suis désolé de vous le dire, vraiment, je devais vous le dire, j'ai des sentiments pour vous. Puis moi, je le regarde, elle dit, ah bon. Elle dit, vraiment, j'ai développé beaucoup de sentiments, je vous aime de tout mon cœur. Ah, bah, là, Il y a des choses que mon esprit n'a pas envie d'entendre parce que je me méfie des pensées. Frère, Superman est mort. Tarzan aussi, il est mort. Ce sont des fables. L'homme araignée aussi, il est mort. Donc, il n'y a pas de super-héros dans la maison du Seigneur. J'ai dit, stop! Tes pensées sont impures. Et je lui expliquais pourquoi les pensées sont impures. Je lui dis, ma soeur, ça, c'est même pas bon. Stop! Tu fais ça tout de suite. Sinon, je te arrière de moi. Est-ce qu'un homme peut dire amen? Amen. Donc, je le fais parce que je crains Dieu. Et je le fais parce que j'aime mon épouse. C'est mieux de penser aux conséquences avant de passer à l'acte. Parce que la plupart des gens, on passe à l'acte, on savoure le péché, et après on se repent. Ou après on dit, oh Éternel, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, oh Éternel Dieu? Qu'ai-je fait, mon Dieu, avec moi? Non, frère, c'était avant qu'il fallait faire ça. Il fallait, comment dire, on avait picturized. Tu as une image de la chose, tu dis, ah non, je pense aux conséquences, à ce que ça va créer dans ma maison, dans ma vie, à ce qu'il faudra encore passer du temps à reconstruire, je refuse. Ma frère, arrière. Quelqu'un dit amen. Donc Anne était ingrate, parce qu'elle ne regardait plus à ce qu'elle avait, elle regardait à ce qu'elle n'avait pas, et c'était un piège. Amen. Et elle ne reconnaît même plus la grâce d'avoir quelqu'un qui l'aime. Elle ne reconnaît même plus l'amour. Écoutez, elle ne sait plus reconnaître le langage, le visage, la nature de l'amour que Dieu a placé autour d'elle. Pourquoi? Parce que le cœur est rempli d'amertume. Et quand le cœur est rempli d'amertume, frère, ma soeur, tu ne peux plus rien voir. Tout ce que tu vois, c'est l'amertume. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les enfants sont en train de rire, les enfants grandissent, ils sont en bonne santé, béni soit l'Éternel. Non, tout ça tu as oublié. J'ai un travail, oh, j'ai des amis qui m'aiment, oh, j'ai des frères, j'ai des conseillers, j'ai du soutien dans la vie. Gloire à Dieu. Non, amertume, tout est masqué, caché à cause de l'amertume que tu as endurée. Que quelqu'un dise amen.
Alors le cœur ne reconnaît plus le langage de l'amour. Autrement dit, Dieu ne peut plus communiquer. Dieu n'arrive plus à parler. Dieu n'arrive même plus à s'exprimer. Parce que tout est masqué, voilé, bouché par l'amour. Et plutôt par l'amertume, la haine, la jalousie, la colère. Que quelqu'un dise, je dois examiner mon cœur. Oh, dites-le encore, je dois examiner mon cœur. Que quelqu'un dise, Seigneur, sonde-moi. La raison pour laquelle tu dois dire, Seigneur, sonde-moi, c'est parce que ça n'apparaît pas de manière visible. Ce n'est pas aussi évident que mentir. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas du tout aussi flagrant. Donc c'est profond, c'est caché. Et tout ce qui est caché peut te détruire. Que quelqu'un dise amen. Troisième erreur de Anne. Anne ne s'apercevait pas. Elle ne percevait pas que Dieu avait aussi un plan pour sa vie à elle. Que Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Oui, mais le problème c'est que l'amertume a tout bouché. Tu es mélangé, mais alors ma vie, alors mais moi, alors qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Il ne te le dira pas tant que tu n'auras pas fait ce que Anne a fait. Oh, quelqu'un dit amen. Elle ne comprenait pas qu'elle avait une destinée qui était différente de la destinée de Pénina. Oui, d'accord, Pénina a beaucoup d'enfants. Oui, ses enfants jouent, j'entends ses enfants jouer. Oui, mais pourquoi l'Éternel m'a-t-il rendu stérile? Se pourrait-il qu'il y ait un autre chemin pour moi? Ça, c'est les questions que je m'étais posées à l'époque. Pourquoi, Seigneur? Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Tu as certainement un plan, tu dois avoir quelque chose en réserve pour moi, ô Éternel. Que dois-je faire? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu avait un plan pour sa vie, mais elle ne pouvait plus comprendre, elle ne pouvait pas voir le plan. Aussi longtemps que tu développeras, écoute-moi mon frère, ma soeur, de l'amertume, de la jalousie, des rancœurs, animosité, haine, envie dans ton cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation donnée. Frère, soeur, tu peux vivre aussi longtemps que tu veux. Dieu ne se révélera jamais à toi pour te montrer ta destinée. Jamais. Je vous dis bien jamais. Montez, descendez, vis encore. Jamais. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Parce qu'il sait que tu ne peux pas voir. Puisque tu es aveuglé. Que quelqu'un dise amen. Amen. Chaque année, Dieu se servait de Pénina. Je dis bien Dieu, pas le diable. Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Dieu aussi a des désirs. Dieu aussi a des besoins. Oh mon frère, ma soeur. Dieu a un cœur qui boue pour beaucoup de choses. Qui veut faire arriver sur la terre. Il a un cœur qui désire voir des choses s'accomplir, se réaliser sur la terre. Dieu, il savait qu'on était dans la période des derniers juges en Israël. Il savait aussi qu'il fallait qu'un juge vienne. Le problème, c'est qu'il y a eu des juges, et puis il y a eu des juges. Il y a eu des juges comme les Samson, puis il y a eu des juges comme les Samuel. Tous les deux, même fonction, pasteur, pasteur. Mais mon ami, il y en a un qui a une grâce particulière et qui fait des choses, mais des choses extraordinaires. Parce qu'il a une origine extraordinaire. Que quelqu'un dise amen. Parfois on voit les gens dire, ah mais comment ça se fait qu'ils sont aussi bénis? Frère, parfois les parents ont fait des choses extraordinaires. Parfois les parents ont eu des alliances extraordinaires avec Dieu. Ils ont payé un prix qui est lourd. Oui, tu t'appelles Isaac, d'accord, tu as un héritage qui est grand, tu n'as pas trop souffert. Oui, mais Abraham, ton père a souffert. Abraham, ton père a payé le prix. Et toi, tu ne fais que jouir de quelques faveurs. Salomon, pareil. David avait tout accompli. Tout accompli. D'ailleurs, David a tellement accompli que Salomon n'avait plus rien à faire. C'est dangereux de n'avoir rien à faire. On voit comment il a fini. 300 femmes, 700 concubines, monsieur sagesse. Quand quelqu'un s'ennuie, c'est terrible. Hein? Alors je veux livrer mon cœur à la volupté, je veux livrer mon cœur à tous les désirs. Je ne me refuse aucun désir, aucune passion, aucune folie. Ecclésiastes chapitre 1, chapitre 2. Ça c'était Salomon. Il n'avait plus rien à faire. David avait tout fait. Le gars, il était bien, il se reposait. Malheur à celui qui se repose trop. Oui, parce que tu commences à faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je construirai une maison, j'achète une voiture, une autre voiture. Allez, je vois un pack de 100 voitures. Et alors? Et alors? Et puis ceux qui ne sont pas sages disent, 100 voitures, si c'est moi, pouvez m'en donner une? Non, achète toi-même. Va là-bas, oublie-nous. Ne l'envie pas, parce que tu n'as rien à lui envier, rien. Il n'a rien de plus, rien de moins que toi, bon sang. Dieu a un plan pour ta vie. Quelqu'un dit encore amen. Et chaque année, l'Éternel Dieu se sert de Pénina. Comment? Insulte. Paumé. Stérile. Na, 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 na. Tu es stérile. On a dû même faire des chansons sur Anne. Anne, la stérile, la maudite, la rejetée. Alléluia, gloire à Dieu, pour moi Pénina et mes enfants. Anne l'a rejetée. Voilà. Et Anne entend. Et qu'on a qu'elle entend. Au lieu de dire, mon âme bénit l'Éternel, parce que Dieu a un plan pour ma vie, là, elle me dit, chante à mon sujet. J'en ai marre. Pourquoi moi, Seigneur? Parce que ce genre d'attitude que Pénina peut avoir envers Anne, Dieu pousse Anne quelque part. Mais Anne ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Elle ne comprend pas pourquoi je vis ce que je vis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que Dieu a un plan. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dis que Dieu aura toujours un plan pour chaque être humain. Dites-moi, je suis né là-bas. Je m'en moque. Je n'ai pas ceci. Je m'en moque. Je ne sais pas faire ça. Je m'en moque. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan est parfait. Et son plan est beau. Et son plan est excellent. Dites-moi ce que vous voulez, ça, vous ne me collerez jamais là-dessus. Il fait toutes choses merveilleuses en sa saison. Amen. Quelqu'un dise amen.
Amen.
En sa saison. Et chaque année, je dis bien chaque année, mon Dieu, c'est terrible. On va à la montagne, on va aller à l'église, chaque semaine. Chaque semaine, il vient à l'église. Et tu as Pénina. Dieu t'a rendu stérile. Dis, Seigneur, j'en ai marre. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de toi. Il dit, non. Anne, tu ne fais toujours pas ce que tu dois faire. Anne, tu es dans une voie qui est fausse parce que ton cœur est souillé. Je ne peux même plus te parler parce que ton cœur est pourri. Ton cœur est impur. Et tu attires à toi les esprits impurs de séduction, de haine, d'animosité, de méchanceté. Oh, que quelqu'un dise amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je le sais de mon cœur. Je suis ressuscité. Je vous explique mon histoire d'il y a quelques années. Donc je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. J'étais délivré de là. Ah ouais, mais totalement délivré. Tellement délivré que maintenant c'est Dieu. Et quand Dieu t'a tout délivré, tu dis, Seigneur, moi. Si pasteur Yves prêche, pasteur Yves ne prêche pas. À l'époque, ça me faisait mal, des fois. Oh, mais il y a des sentiments qui sont mauvais. Frère, il y a des sentiments qui sont mauvais. Quand ton gars ne prêchait pas, ton gars, parfois, il n'était pas content, mais il y a longtemps. Mais dès ton cœur, mais ça, il y avait toujours quelque chose dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comme ce sentiment un peu de malaise, parce que, bon, moi, je ne prêche jamais, moi, je ne parle jamais. Oh, frère, aujourd'hui, je préfère m'asseoir plutôt que de parler. Là, je parle parce qu'il n'est pas là. Il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Amen. Mais je suis délivré. Délivré. Et mon âme est remplie de gratitude parce que j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. Il m'a secouru, je vous assure. Il m'a secouru grave. Ah, c'était grave. Grave, grave, mon frère, grave. Donc, Anne ne comprenait pas que Dieu avait un plan pour sa vie. Mais chaque année, Dieu utilise Pénina, son souffre-douleur, pour un but bien précis. Dieu utilisera toujours Pénina contre toi pour un but. Quand tu vois Pénina qui se lève te dire « Incapable, stérile, malheureuse, pitoyable, maudite, travaille pas, hein, pas de mariage, hein, pas d'enfant, hein. » Dieu utilise ces bouches-là pour un but. Et toi, ta prière, Seigneur, ne le laisse pas mourir. Autant marqué par Dieu, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il voit. Quelqu'un dise amen. Donc, je vous ai parlé des trois erreurs que Anne a commises. Première erreur, elle était prisonnière de sa rivale Pénina. Deuxième erreur, elle était devenue ingrate parce qu'elle a oublié les bienfaits de Dieu à cause de son handicap ou de ses manques ou de son blocage. Et troisième erreur, elle n'a pas compris que Dieu avait un plan pour sa vie. Et c'est une grosse erreur, très grosse erreur.
Alléluia. Les quatre choses maintenant que Anne a dû comprendre. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous emmène toujours dans un processus de maturité afin que nos vies changent. Alors, première chose que Anne devait comprendre et que toi aussi tu dois comprendre, c'est que le cœur, il peut être pur, mais le cœur peut être rendu impur. Le cœur d'un homme, le cœur d'une femme peut être rendu impur par les circonstances, les événements, les difficultés, les tribulations de nos vies, de ta vie, de ma vie. Quelqu'un dit amen. Le cœur peut être rendu impur. Si le cœur peut être rendu impur, tu comprends pourquoi il a dit, garde ton cœur. Plus que tout, laisse ton argent, va là-bas. Laisse même tes enfants s'il le faut, va là-bas. Mais mon cœur là, tu dois le barricader. Barricade-le, sécurise-le, protège-le. Plus que quoi? Plus que toute autre chose. Parce que ta vie est dans ton cœur. Parce que tout ce qui fait ta vie, tes paroles, tes gestes, tes réactions, tes actions, viennent toujours de ton cœur. Et quand ton cœur est pur et libre, alors quelle que soit la chose qu'on peut te dire, tu es libre, ça ne t'affecte pas. Tu dis, ça ne peut pas rentrer dans mon cœur. Oh, que quelqu'un dise amen. Deuxième chose que Anne devait comprendre, que tu dois comprendre, que l'amertume t'empêchera toujours de voir, de reconnaître, d'expérimenter les grâces que Dieu t'a accordées, si grandes soient-elles. Quelles que soient les faveurs que Dieu t'accorde, tu ne pourras pas les expérimenter, tu ne pourras pas les palper, les goûter, tu ne pourras pas en jouir, tant que tu auras de l'amertume dans ton cœur. L'amertume te rend toujours aveugle, et te rend aveugle sur tout, mais absolument sur tout. Je connais des femmes mariées, je connais vraiment des femmes qui sont mariées, avec de superbes maris, de superbes époux, mais elles n'arrivent pas à jouir du mariage. Parce que leur propre cœur est rempli d'amertume. Et Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Marié, béni, avec un mari formidable, des enfants formidables, mais elle n'arrive pas à expérimenter. Elle n'arrive même pas à se rendre compte qu'elle est bénie. Parce que l'amertume l'a aveuglée. L'amertume bousille sa vie. Que quelqu'un dise amen. Troisième chose importante qu'elle a dû comprendre et que tu dois impérativement comprendre. Que Pénina, ton souffre-douleur, est une bénédiction de Dieu. Et que quelqu'un dise amen. Qu'en vérité, Pénina est une bénédiction de l'Éternel. Arrête de voir Pénina comme étant une malédiction. Arrête de la voir comme étant même un véritable souffre-douleur. Parce que Pénina est là pour un but. Ne blâme pas Pénina. Ne tue pas Pénina. N'essaie pas de tuer Pénina, tu tuerais ta bénédiction. Que quelqu'un dise amen. Ne cherche pas à tuer Pénina. Ne cherche même pas à chasser Pénina. Parce que Pénina doit voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Pénina doit voir ce que Dieu fera de toi. Oh, que quelqu'un dise amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Pénina a un rôle. Elle a une mission. Elle a un but. C'est de te pousser. Pousser où? Vers le trône de Dieu. Oh, que quelqu'un dise amen. Elle te pousse vers la présence de Dieu. Dans le désespoir, elle te pousse à crier à l'Éternel. Dans le malheur, Pénina te pousse. Mais tu dois comprendre pourquoi Pénina est là. Elle est là pour ton bien. Oh. Que quelqu'un dise amen. Cette maladie n'est pas là pour la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu. Dieu doit trouver quelque chose à faire. Mais on souffre, on hésite, mais Seigneur, on nous demande de fabriquer encore plus de briques. Cette requête est là pour la gloire de Dieu. Dieu a quelque chose, a une gloire à tirer de cette situation. Voilà pourquoi il pousse. Et toi, tu dois discerner et supporter et bénir l'Éternel. Oh, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne tue pas Pénina. Ne blâme pas. N'injurie pas en retour Pénina. Elle m'a dit ça. Elle va voir qui elle a fait. Moi aussi j'ai une bouche. Non.
N'insulte pas Pénina parce qu'elle t'a insulté. Non, Pénina, tu auras affaire à moi. Tu m'as traité comment? Eh bien, tiens, allez. Non, les femmes se battent. Mais non, 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 non. À côté, Dieu dit, mais non, mauvaise route. Bip, mauvaise voie. Ah, je prends du plaisir là, j'avoue. Amen. Quatrième chose à comprendre. Qu'elle devait comprendre. Elle devait comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure déjà. Que Dieu avait un plan pour sa vie. Amen. Mais que la manifestation de ce plan, écoutez-moi, dépendait d'elle. La révélation de ce plan dépendait, non pas de Pénina, non pas de Dieu lui-même, oh que quelqu'un dise amen, mais de Anne elle-même. Parce que le secret était en Anne. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Que quelqu'un dise amen. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Un jour, tu te rends compte que je suis devenu prisonnier de Pénina, prisonnier de l'amertume. Je ne sais plus quoi faire. Mes pensées là-même ne sont pas bonnes. Mes sentiments ne sont pas bons. Les pensées de mon cœur me dérangent et je ne sais pas quoi faire. Et tu te dis, non Seigneur, ça, je connais au moins un peu la parole de l'Éternel. C'est une mauvaise voie. C'est une impasse. C'est une voie de destruction. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il dit, non, 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 non. Ça suffit. Maintenant, il faut que ça change. Et un bonjour après le repas. Anne dit, bon, maintenant aujourd'hui, là, c'est le jour J. C'est le moment M et l'instant T. La seconde S. Je vais prendre mes pieds P pour aller dans la maison M de l'Éternel E. Dieu et moi, ça va chauffer aujourd'hui. Ça sera son pied, mon pied. Détermination, la rage de s'en sortir naît dans son cœur. Mais ça, c'était sa décision. Que quelqu'un dise amen. Alors, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris que je dois prendre une décision radicale pour que ça change. Pas demain, je refuse. Mais c'est maintenant que ça doit changer. Je crierai à l'Éternel comme jamais je l'ai crié à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, la Bible dit, après le repas, comme elle ne mangeait pas tellement, elle était amère. Seigneur, là, j'en ai marre. Ça, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais dans la maison de l'Éternel. Et pendant qu'Élie est assis là-bas, tu vois une femme qui s'appelle Anne qui vient, qui se jette devant le trône, devant l'autel de l'Éternel. Et elle se met à prier. Et la Bible dit qu'elle pria longtemps. Il y a des moments, frère, il ne faut pas juste prier. Il faut prier longtemps. Pas juste un jour des fois, plusieurs jours. Pas juste une semaine, plusieurs semaines. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu obtiennes le déblocage de la situation. Ou encore jusqu'à ce que tu obtiennes un réma de Dieu, mais un réma authentique. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. J'ai crié à Dieu, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce que j'obtienne de la part de Dieu le réma. Mais avant ça, j'ai fait une chose, exactement ce que Anne a fait. Les trois choses qu'elle doit faire maintenant. Et les trois choses qu'elle fit. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Et elle pleura, et elle pleura, et elle pleura. Regardez le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Pas devant les frères et les sœurs. Pas devant les amis. Parce qu'il y a des moments où les amis, là, ça ne compte plus. C'est entre Dieu et moi-même. Là, je n'ai pas besoin de pasteur. Non, là, c'est Seigneur, c'est toi et moi. Toi et moi, on va à la rencontre. On va se rencontrer. Oh, quelqu'un dit amen. Je vais trouver l'Éternel, je vais invoquer Dieu, je vais chercher Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle fit? La Bible dit qu'elle prit un moment de prière devant l'Éternel seule. Et qu'est-ce qu'elle fit pendant ce temps de prière? Elle déversa son âme devant l'Éternel. Pas devant Pénina, pas devant ses pasteurs, pas devant ses amis, mais devant l'Éternel. Elle dit, là j'ai plus le choix, je dois déverser. Seigneur, voilà mon cœur. Je sais que mes pensées sont mauvaises, mes voix sont mauvaises. Je t'en supplie, au secours! Sauve-moi de moi-même. Aide-moi à changer, Seigneur. Tire-moi de là, sors-moi de là. Je me suis jeté moi-même dans la boue, d'accord, je reconnais, mais je t'en supplie. Là, mes sentiments ne sont pas bons. Mes pensées, mes voix. Non, Seigneur, change-moi. Et alors elle dit, purifie mon cœur. Elle crie à Dieu. Et là, maintenant, chaque parole compte pour elle. Oh, que quelqu'un dise amen. Rends-moi aussi pur que l'or, elle pense, et l'argent purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Et bien dit, feu du fondeur. Moi, Seigneur, désormais, je n'ai qu'un désir. Être saint, s'il te plaît, pitié, être saint. Et je veux être mis à part pour toi, Seigneur. Elle ne veut plus être mise à côté de Pénina. Lui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt, Seigneur, à ton pays. Aha. Alors Dieu entend la prière de Anne. Il dit, enfin, elle fait la première chose de bon depuis longtemps. Elle fait ce qu'elle devait faire. Déverser son cœur devant moi. Vider son cœur de toute cette amertume qui la gangrène depuis si longtemps. De toute cette jalousie, cette envie-là, subtile, cachée. Elle dit, Seigneur, ce n'est pas Pénina qu'il faut blâmer. Je suis coupable. Change-moi. Change-moi. Alors Dieu entend la prière. Et le Père est content. Il dit, ah, super. Maintenant, je peux te guérir de toute maladie, de toute douleur, de toute blessure du passé. Comme un aigle. Voltige sur ses enfants. Il vient saisir Anne. Et il nettoie. Il est en train de la purifier. Il la lave complètement. Il dit maintenant, je déverse dans ton cœur mon amour et mon amour seul. Un amour parfait. Un amour qui n'est point envieux. Un amour qui est pur. Un amour qui est sincère. Un amour qui est droit. Un amour qui, même lorsqu'on t'insulte, tu n'insultes pas. En te méprise, tu bénis l'Éternel. Parce que tu sais que Pénina le fait pour un but. Je vais encore aller devant l'Éternel. Purifie mon cœur. Parce que tu comprends que c'est Dieu qui a les clés, qui a les réponses pour toutes ces situations. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant que Dieu change son cœur, maintenant, Dieu dit, ok, ton cœur n'est plus rempli d'amertume. Ton cœur n'est plus rempli de haine, de jalousie, d'envie. Ces sentiments dévastateurs. Maintenant, je peux te révéler mes desseins pour ta vie. C'est ce qu'il a fait avec moi, bien-aimé. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a dit, maintenant je te révèle ta voix. Il m'a dit, tu n'as pas seulement un appel ecclésiastique. Tu as un appel politique. Je vous l'ai dit, tu as un appel économique et financier. Je dis, Seigneur, c'est ce qu'il fallait me dire depuis longtemps. Il fallait le dire plus clair. Jusque-là, tu ne parlais pas. Parle maintenant. Je t'appelle à de grandes choses. Je ne peux pas vous dire, c'est tellement dangereux. Je dis, Seigneur, d'ailleurs, même je m'en moque. Ça s'accomplira parce que Dieu l'a dit. Et je suis une lumière du monde de ma génération. Et je comprends pourquoi alors je suis passé par ce par quoi je suis passé. Mais je comprends aussi que si je n'avais pas humilié mon âme, répandu mon âme devant l'Éternel, je n'aurais pas eu la réponse de l'Éternel. Si je ne m'étais pas abandonné complètement à Dieu pour dire, Seigneur, ces sentiments-là, ce cœur-là, ces paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas normales. Ce n'est pas normal que je dise une chose pareille ou que je manifeste une telle attitude. Non! Je refuse, Seigneur, aide-moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et dans cet élan, elle fait maintenant une chose, deuxième chose qu'elle veut faire. Elle s'engage à faire un vœu. Elle prend un engagement ferme envers l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que le cœur de Dieu battait aussi pour que ses projets s'accomplissent sur la terre en Israël. Alors qu'est-ce que Anne va donc faire? Elle fait donc un vœu en l'Éternel, verset 11. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors que Dieu est en train de restaurer son cœur pleinement de son amour, elle prend un engagement ferme. Elle fait un vœu. Elle prend un engagement ferme et inhabituel. Elle se consacre elle-même à l'Éternel. Parce que vois-tu, avant de consacrer les enfants, ou de consacrer une bénédiction, ou de consacrer une faveur, il faut d'abord que toi-même, tu sois consacré à l'Éternel. Mais consacré pleinement. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous me suivez? Il faut te consacrer toi-même pleinement. C'est-à-dire, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est à toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'on veut, elle démontre qu'elle se soumet à la volonté de Dieu pour sa vie. Par son vœu, elle démontre qu'elle dépend de Dieu. Si l'Éternel donne, il peut reprendre, que son nom soit béni. Par son vœu, elle démontre qu'elle a confiance en l'Éternel. Par son vœu, elle démontre qu'elle prend des risques pour l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Et moi, j'ai fait un vœu à l'Éternel il y a quelques années. Il y a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans. 2 ans. Alors qu'on était en train de faire on nous faisait nos offrandes pour la construction du temple, de la maison de l'Éternel. J'ai fait un vœu. Dans mon désespoir, j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, je m'engage à faire une chose. Même ma femme se fait là, mais je dis, mais je vous le dis en toute transparence. J'ai dit, Seigneur, je sais d'où je viens. Je sais de quoi tu me sors. Je sais à quoi tu m'appelles maintenant. Même si je ne connais pas tous les contours, mais je vois l'objectif final. Alors, ô Éternel, je m'engage à faire une chose inhabituelle, que je n'ai jamais faite auparavant. J'ai dit, Seigneur, je veux offrir à l'Éternel quelque chose qui me coûte beaucoup, qui me coûte cher. Vous me comprenez, oui ou non? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, Seigneur, l'enfant que tu me donneras, le mâle là, je le consacrerai. Il sera à toi, à ton service. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire que la chose pour laquelle j'ai eu des souffrances, des blocages, des injures, quand je l'aurai, enfin, je le consacrerai. Quelqu'un dit amen. Quand tu me sauceras, elle fait ça en un jour. Donc, autrement dit, après, elle aurait pu oublier. Non, Seigneur, en fait, j'étais en train de parler sous l'effet de la pression. Je parlais parce qu'en fait, il disait, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais mon cœur, tu sais comment le cœur de l'homme est. Et moi aussi, je fais un vœu envers l'Éternel. Je m'étais engagé envers Dieu, il y a 2 ans à peu près. Il dit, Seigneur, je ferai quelque chose de scandaleux. Je sèmerai 75 000 euros dans la maison de l'Éternel, pour l'église de l'Éternel. J'allais avoir ça où? Comment on dit en Afrique? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui disait Il disait, je ne sais pas. Par contre, je sais une chose. Quand je l'aurai, je sèmerai. Je consacrerai. Est-ce que vous me suivez? Et je l'ai fait dans le domaine où je voulais, où je voyais la main de Dieu sur ma vie. Je disais, Seigneur, je sais que là, tu veux me bénir, puisque tu me l'as dit. Alors, je ferai un vœu dans ce domaine-là qui a été mon blocage pendant longtemps. Quelqu'un dit amen. Je l'ai fait. Eh oui, bien-aimé. Parce que Dieu entend les prières. Et il y répond aux prières. Peut-être pas tout de suite, mais il répond aux prières. Quelqu'un dit amen. Et je suis reconnaissant parce que Dieu m'a fait la grâce d'honorer mon vœu. Quelqu'un va dire, combien? Ce sont 15 000 euros. Oui, frère. J'ai fait. Et c'est tout ce que j'avais d'ailleurs. Parce que Dieu, à un moment donné, fait quelque chose. Il te crée un miracle. Et tu as la bénédiction que tu vas avoir. Maintenant, il attend, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous me suivez? Et là, tu regardes la chose. J'ai regardé l'argent. Tu dis, Seigneur, ça, c'est toute ma vie, ça. J'ai une voiture à acheter, une autre maison à acheter, des besoins tellement nombreux que je ne sais pas quoi faire avec cette somme d'argent. Mais je dis, Seigneur, ça, c'est un vœu d'il y a 2 ans. Avec un peu de douleur, quand même. Quelqu'un dit amen. C'est là où Dieu voit si tu le crains vraiment. C'est là où Dieu voit si tu l'aimes vraiment. Et si tu es conscient de, et moi je le fais avec plaisir, parce que je sais que quand tu sèmes, ah frère, vous allez voir le pasteur arrive demain au sommet de son art, par la grâce divine. Ah, mais c'est pas normal, hein? Comment il a fait? Non, frère, il y en a qui ont des alliances avec Dieu. Parce que c'est dans les moments pareils que tu fais un vœu. Et quand tu fais un vœu, en général, c'est là où tu conclus une alliance avec Dieu. Où tu dis, toi et moi, maintenant, nous faisons une alliance. Je te bénirai. Et toi, tu te consacres à moi. Tu m'honoreras, dit l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Personne ne pourra me dire un jour, le pasteur a volé l'argent de l'église. Jamais. Jamais, frère, parce que moi, mes sous, c'est ailleurs. Mais ça, c'est une alliance que j'ai avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que la vérité, je termine, je conclue. La vérité, c'est que c'est très facile et très tentant de ne pas se conformer ou de ne pas accomplir un engagement ferme, un vœu qu'on a fait envers l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et je voudrais conclure par une chose fondamentale. Lorsque Anne a enfin été exaucée donc par l'Éternel, lorsqu'elle a enfin eu le fruit de ses prières, le fruit de sa consécration, le fruit de son engagement envers Dieu. Donc la Bible dit que l'Éternel se souvint d'elle, bien entendu, parce qu'elle enfanta, l'année d'après, elle eut son enfant. Mais ce n'était pas le plus difficile. Ce n'était pas encore la fin de la difficulté. Il y a une chose qu'Anne ne devait pas oublier. Il y a une chose à ne pas oublier. Quand on fait un vœu envers l'Éternel. Lequel? La Bible dit, verset 24. Quand elle eut souvré l'enfant, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena de la maison de l'Éternel à Shiloh. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je veux aussi le prêter maintenant, le consacrer à l'Éternel. Il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là en adorant. Écoutez-moi, je conclue. Quand l'enfant naquit, quand l'enfant est né, Anne décida de le préparer avant de le présenter. Elle ne voulait pas juste donner l'enfant. Ce qui aurait été quand même été plus facile, donner l'enfant tout de suite. Le bébé, allez, Élie, élève l'enfant. C'est pourquoi? Parce que je sais que ça va me faire mal. Ça fait mal. Déjà, j'ai un enfant que j'ai attendu depuis tellement longtemps. Il dit non, je veux le préparer. Avant de l'envoyer, de l'emmener à la maison de l'Éternel, je le préparerai. Alléluia. Cet acte pouvait être perçu par son mari comme étant un acte de torture morale et torture mentale. Mais il dit, femme, mais tu es maniaque, tu veux te faire mal. Emmène-le tout de suite dans la maison de l'Éternel, comme ça tu n'auras pas à souffrir. Elle dit, non, 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 non. Je veux le préparer, je veux le sevrer, je veux l'allaiter moi-même avant de l'emmener. Or, vous savez que pendant la période de sevrage, d'allaitement, de préparation, Anne, elle aima l'enfant. Elle a appris à aimer l'enfant. Elle a appris à s'attacher à l'enfant. Elle apprend à s'habituer à l'enfant. Elle touche l'enfant, elle palpe la bénédiction de l'Éternel. Elle touche la bénédiction de l'Éternel qu'elle a attendue pendant si longtemps. Quelqu'un dit Amen. Elle contemple la bénédiction, elle contemple l'enfant. Elle passe des heures, des minutes, des semaines avec l'enfant. Mais quelle torture ça doit être de savoir que demain, le même enfant à qui je m'attache, il va falloir que je le donne, que j'honore mon vœu envers l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Mais Anne se souvient que le vœu qu'elle a fait, plus important que ses désirs, ses passions, ses besoins, ses envies, ses sentiments. Alors elle décide d'obéir à l'Éternel. Et ce qui est terrible, c'est que quelques années ont passé. Après l'obéissance ou l'accomplissement de son vœu, elle reste quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques années, sans la bénédiction. Donc elle se retrouve dans la situation initiale et je sais de quoi je parle. Elle ne voyait plus l'enfant. Parce que l'enfant avait été consacré dans la maison de l'Éternel. Elle ne voyait plus l'enfant. Elle ne voyait qu'une seule fois par an. Tout ce qu'elle voyait, c'était les enfants de sa rivale. Mais là, la rivale ne chantait plus. Parce qu'elle avait vu la grandeur de l'Éternel. Mais quelque part aussi, le fait d'entendre les enfants de sa rivale, toujours en train de jouer dans la cour, chanter et compagnie, jouer avec leur mère, ça fait des pincements au cœur. Parce que j'avais quelque chose. Mais par obéissance et crainte et amour de Dieu, j'ai donné à l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle ne jouait plus avec son enfant. Je suis convaincu qu'Anne a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités pour regretter le choix qu'elle avait fait. J'en suis convaincu. Parce que la vie nous donne des opportunités. Mais si seulement j'avais à l'époque, ce que j'avais à l'époque là, aïe, 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 aïe. Si seulement j'avais gardé ce que j'ai donné à Dieu. Peut-être qu'alors je n'aurais pas été dans l'endettement. Peut-être qu'alors je n'aurais pas eu autant de problèmes financiers. Peut-être, peut-être et peut-être. Erreur. Faux. Quelqu'un dit Amen. Elle a dû soupirer. Elle a dû gémir en repensant au vœu qu'elle a fait envers l'Éternel plutôt. Mais mon frère, ma soeur, Dieu se souvient toujours de tout l'amour que nous manifestons pour son œuvre tôt ou tard. L'Éternel s'en souvient toujours. Quelqu'un dise Amen. La Bible dit toujours dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin.
Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie, le prophète, le sacrificateur, il bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel, verset 21, eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dieu ne lui a pas donné un enfant, il lui a donné plusieurs enfants. Il ne te redonnera pas une seule faveur. Il te redonnera faveur après faveur, après faveur, après faveur. Lorsque seulement, si seulement tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. L'histoire de Anne, mon frère, ma soeur, c'est mon histoire. Elle ressemble à l'histoire de quelqu'un dans cette assemblée ce matin. Meurtri, blessé, tu décides un jour que ce n'est pas normal, qu'il faut que ça change. Tu décides de revenir à l'Éternel. Et l'Éternel te surprendra. Si quelqu'un a compris quelque chose ce matin, Dieu est fidèle. Mais c'est aussi à nous d'être fidèles envers notre Père. Inclinons la tête, s'il vous plaît. En signe de révérence envers Dieu. Si tu as été meurtri, si tu as été trahi, si tu as été blessé, si tu as été rejeté, si tu as été complètement défait par la vie, détruit par la vie, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, il y a encore beaucoup d'espoir. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, mais Dieu regarde à toi. Et là, ça ne dépend pas de l'Éternel. Ça dépend de toi et de toi seul. Ça dépend de toi et de toi seul. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier. Je voudrais juste, là où nous sommes assis, murmurant à l'Éternel quelques mots pendant quelques instants. Ce n'est pas la peine de crier, ce n'est pas la peine de hurler. C'est juste le temps de murmurer, de dire Seigneur, sonde-moi. Parce qu'il y a forcément, il y a peut-être quelque chose au plus profond de mon cœur. Il y a des paroles que je libère dans certaines circonstances qui ne sont pas normales. Il y a des pensées que j'ai, ou j'ai eues qui ne sont pas normales, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas agréables à Dieu. Je veux être débarrassé, je veux être changé, je veux être délivré. Il y a des pensées que j'ai eues à un moment donné ou à quelques reprises, mais qui me font peur parce qu'elles ne sont pas, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Elles ne sont pas pures. Elles parlent de jalousie, elles parlent de convoitise, elles parlent de séduction, elles parlent d'immoralité, elles parlent d'amertume, elles parlent de je ne veux pas. Ce ne sont pas les pensées de Dieu pour ma vie, je refuse. Ces choses vont me rendre aveugle. Or, je ne peux pas, après avoir si bien commencé, après avoir autant marché avec Dieu, comment penserais-je encore tomber, chuter dans les choses du passé? Non, Seigneur, s'il te plaît, change-moi. Sonde-moi d'abord. Examine-moi. Connais mes pensées, connais mon cœur. Je parle de ces racines de mon cœur, de ces profondeurs que je ne vois pas de mon cœur. S'il te plaît, je t'invoque, ô Éternel. Voici mon cœur, qu'il soit toujours bon, je t'en supplie. Je t'en supplie, change mon cœur. Il y a forcément quelque chose dans un domaine ou un autre de ma vie, de ta vie, mon frère, ma soeur, qui n'est pas droit, qui risque de te disqualifier, qui risque de te faire quitter la voie de l'Éternel, qui risque de te faire tomber tôt ou tard. Ce sont des racines, elles ne sont pas visibles, alors tu dois dire à l'Éternel, sonde-moi et s'il te plaît, change mon cœur, qu'il soit toujours bon, Seigneur, pur, pur devant l'Éternel. Mon âme a soif du Dieu vivant, peu importe Pénina, que Pénina vive devant moi, ô Éternel, parce que alors je comprends que Pénina me pousse devant le trône. Je ne tuerai pas Pénina, je ne chasserai pas Pénina, mais elle fera Pénina comme Dieu est un Dieu de bonté, de bienveillance et de grandeur. Et il fera de grandes choses dans ma vie parce qu'il a un plan pour ma vie. Mais je dois sonder mon cœur devant l'Éternel. Je te supplie, ô Éternel, ô Dieu. Seigneur, nous voici. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, magnifique, excellent, admirable et glorieux Saint-Esprit, je te supplie, Seigneur, me voici. S'il te plaît, change. Sonde, Seigneur, et change. Merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Seigneur, toi, tu es vraiment tout pour moi. Moi, je veux arriver, Seigneur, au point où je chante, tu es vraiment tout pour moi. Mais où, Seigneur, rien d'autre ne compte, si ce n'est l'Éternel. Que j'ai ou que je n'ai pas, mon âme bénit l'Éternel. Que je possède ou que je ne possède pas, mon âme est attachée à l'Éternel. Parce que j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a secouru et il me donne un cœur pur, un cœur disposé, un cœur droit, un cœur sincère. Et contre cela, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bénédiction qui puisse acheter un cœur pur, un cœur agréable, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui honore Dieu, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui a soif du Dieu vivant, un cœur que Dieu agrée, où Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-là est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre le Père dire, celui-là, celui-ci, celle-là est mon fils, ma fille bien-aimée. Je mets mon affection, mon amour, elle me fait plaisir. Il me fait plaisir. Quand je vois malgré les épreuves, il reste constant, il reste droit, il cherche la volonté de Dieu, il reste pur dans son cœur, il ne salit pas, il ne se souille pas, il ne salit pas son âme, il ne salit pas son cœur, il reste pur, il reste sincère devant Dieu. Dieu dit, voilà ce à quoi je prends plaisir. Certainement, je te bénirai. Certainement, je te multiplierai. Certainement, je t'accorderai une faveur sans précédent. Les nations viendront devant toi. Tes ennemis viendront devant toi. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Et qu'hors de moi, il n'y a point de salut. Ils reconnaîtront que ce n'est ni par la force, ni par la beauté, ni par l'intelligence, ni par ses propres capacités. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Que les grâces se communiquent, que l'abondance se déverse. Seigneur, assurément, certainement, cette parole concerne quelqu'un. Je suis reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, qui nous emmène au changement et au changement radical. L'Éternel est patient, mais il nous pousse devant le trône. Il suscite l'adversité, les insultes et les blessures pour nous pousser devant le trône. Pas pour fuir l'Éternel, mais pour nous rapprocher de l'Éternel. Seigneur, oh mon Seigneur, je veux être semblable à toi. Seigneur, me voici. Merci. Je suis reconnaissant. Parce que tu as parlé à mon cœur d'abord et tu parles à ton peuple ce matin. Je suis reconnaissant. Moi, j'ai invoqué l'Éternel et je suis témoin de ce que quand on invoque l'Éternel, quand on déverse son âme devant l'Éternel, l'Éternel entend, il agrée et il exauce nos prières. L'Éternel nous relève et nous lave entièrement et il nous multiplie. Et il nous montre la voie tracée pour nous. Parce que l'Éternel est bon. Parce qu'il est bienveillant. Parce qu'il est digne de confiance, digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Mon âme, c'est pour cela que mon âme est attachée à l'Éternel. Aujourd'hui encore plus qu'hier. Demain encore plus qu'aujourd'hui. J'ai choisi l'Éternel. L'Éternel. Et l'Éternel. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, enfants de Dieu, enfants bénis de Dieu, enfants choisis de Dieu, citoyens du royaume des cieux, ambassadeurs de Christ, ici-bas sur la terre, nous t'exprimons notre reconnaissance, notre profonde gratitude, parce que certainement lorsque Dieu parle, c'est pour nous aider, pour nous corriger. Merci. Que l'honneur, la gloire, la reconnaissance et la louange appartiennent et reviennent à l'Éternel et à l'Éternel seul. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ce n'est pas notre nom, mais c'est le nom de l'Éternel en nous. C'est le nom de Christ Jésus en nous qui sera glorifié. À toi l'honneur et à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Enseignement.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.